Il est 19h, vous écoutez France Inter. Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. La crise en Ukraine et après l'alerte, la diplomatie, Washington, Moscou et Paris sont entrés aujourd'hui dans une phase intense de discussion, précision de Bertrand Galichet. 44 personnes interpellées, plus de 300 véhicules interceptés. Le convoi des antipasses vaccinales s'est heurté aux forces de l'ordre. Plusieurs manifestants ont réussi à se rendre sur les Champs-Élysées. La campagne présidentielle Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière en meeting à Paris plaide pour le retour de la vraie gauche. Éric Zemmour en Côte d'Or prend pour cible Valérie Pécresse. Dans ce journal également, les Jeux Olympiques de Pékin et la médaille d'argent de Quentin Fillon-Maillet en biathlon. Et en patinage artistique, le couple Papadakis-Cizeron prend la tête de la spécialité. Le temps avec une forte perturbation qui arrive demain par le Nord-Ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Et d'abord le rugby, direction le Stade de France pour le tournoi des Six Nations. Et la France mène devant l'Irlande 27-21. On approche de l'heure de jeu. Bonsoir Fanny Lechevestrier en direct.
Bonsoir,
du Stade
Frédéric.
De France. Les Français ont démarré pied au plancher, mais que c'est difficile Fanny.
Ah oui, rien n'est fait dans cette partie. Les Bleus qui menaient 19-7 à la mi-temps face aux Irlandais. On s'était dit que ça sentait bon. Les Bleus étaient ultra dominateurs dans tous les compartiments du jeu. Et puis voilà, il y a eu le retour au vestiaire. Et les Irlandais, comme on pouvait le craindre, ont réagi. Deux essais inscrits coup sur coup pour eux. On s'est dit que ça allait tanguer côté français. Les Irlandais étaient revenus à un point. Et puis il y a eu une superbe réaction collective avec un essai il y a deux minutes de Cyril Baye, le pilier toulousain. Et les Bleus qui reprennent donc l'avantage, 27-21, 6 points d'avance pour l'équipe de France après 57 minutes de jeu. On rappelle juste l'enjeu de ce match. C'est quasiment une finale avant l'heure. L'une des équipes qui va l'emporter ce soir prendra largement la tête de ce tournoi à destination et pourra encore rêver de grands chelems.
Fanny Lechevestrier, merci en direct du Stade de France. Et cet après-midi, les Gallois ont battu les Écossais à Cardiff, 20-17. Les Français se sont aussi distingués aux Jeux Olympiques de Pékin. Médaille d'argent ce matin pour Quentin Fillon-Maillet en biathlon sur les 10 km du sprint. Et cet après-midi, en patinage artistique, danse rythmique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont parfaitement négocié leur entrée en lice en réussissant une danse récompensée de 90,83 points, ce qui correspond à un nouveau record du monde de la spécialité. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron avec Guillaume Batin.
C'est sûr que c'est les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition qui est facile et on était très nerveux évidemment. Donc on était super heureux d'avoir fait une belle performance et d'être heureux de ce qu'on avait fait.
Ouais, mais je pense qu'en fait en allant pas en championnat d'Europe, avec l'annulation de la finale des Grands Prix, ça nous a donné quelques semaines de plus d'entraînement. Donc c'était du temps de gagner en fait pour nous. Puis voilà, je pense qu'on est arrivé ici vraiment plus près qu'on pourrait jamais l'être. Puis ça nous permet de nous libérer et de laisser la magie un petit peu prendre place sur la glace.
Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron avec Guillaume Batin. L'actualité à l'étranger, dominée ce soir encore par la crise ukrainienne et la question d'une offensive russe en Ukraine, se fait de plus en plus insistante et les États-Unis disent craindre une invasion imminente de l'Ukraine. Et Washington a ordonné aujourd'hui le retrait de la quasi-totalité des soldats américains encore en Ukraine. Moscou, de son côté, dénonce l'hystérie américaine, un contexte de grande tension, mais dans lequel se déroule en parallèle une intense séquence diplomatique. Joe Biden, Vladimir Poutine ont eu cet après-midi un entretien d'un peu plus d'une heure et à la mi-journée, Emmanuel Macron et le président russe ont déjà eu un échange et les discussions vont se poursuivre. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Frédéric.
Et Emmanuel Macron a dit au président Poutine qu'un dialogue sincère n'est pas compatible avec une escalade.
Le président français lui a également rappelé que les Occidentaux sont déterminés à réagir en cas d'opération militaire russe en Ukraine. En fait, Emmanuel Macron a relayé auprès du Kremlin les inquiétudes de ses partenaires européens. Au cours de cet échange, Vladimir Poutine a démenti à nouveau toute intention agressive. Il semble aujourd'hui dans le même état d'esprit que lors de la rencontre de lundi à Moscou, dit-on à l'Elysée, à savoir dans une posture à la fois d'exigence et de provocation, mais laissant ouvertes toutes les options. Emmanuel Macron a rappelé à son homologue les fondamentaux. Pas de discussion possible sur l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. La présidence française réfute toute idée de finlandisation de ce pays. En revanche, il faut assurer la sécurité de chacun des États concernés. Et là, il y a un espace de négociation. Après cet entretien, Emmanuel Macron va reparler aujourd'hui même à Joe Biden, à Olaf Scholz et au président ukrainien Zelensky. Quant aux Français d'Ukraine, des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité, mais il n'y a pas d'ordre de départ. Il serait 1 000 000, dont une bonne partie de binationaux, qui n'ont pas forcément envie de partir.
Bertrand Galichet, puis au Bénin, cette information de l'état-major des armées, 40 djihadistes impliqués dans les attaques au Bénin ont été tués par les soldats français de l'opération Barkhane. Ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français, dans le parc naturel W du Bénin. En France, à Paris, plusieurs dizaines de véhicules du convoi de manifestants anti-pass vaccinal ont réussi à passer entre les mailles du filet de la police et de la gendarmerie. Des camping-cars, des motos ont perturbé la circulation, place de l'Étoile et sur les Champs-Élysées. 44 personnes ont été interpellées, plus de 300 véhicules verbalisés. Et la police a tiré des grenades lacrymogènes à l'Arc de Triomphe pour faire reculer les manifestants. Le reportage de Damien Mestre.
Toute la matinée, les rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant le point et l'heure de ralliement. Avant qu'en tout début d'après-midi, les premières voitures s'arrêtent au pied de l'Arc de Triomphe.
Convoi de la liberté, convoi de liberté, il y en a marre.
Beaucoup de drapeaux bretons, occitans, normands, certains montent directement sur le toit de leur véhicule.
Il faut que les restrictions sanitaires, ça s'arrête, il faut que les gens puissent vivre.
Les discours sont durs, l'ambiance parfois tendue.
Ce sont des cons, propagande, c'est de la merde, ce sont des gouvernants de merde, ils nous mentent sur tout, sur tout.
Et rapidement, les forces de l'ordre bloquent et verbalisent les premiers automobilistes. Plus bas, le long des Champs-Élysées, quelques dizaines de voitures affluent encore une petite heure après le début du rassemblement. Ce sont les premiers jets de gaz lacrymogène.
Je suis émue, j'ai envie de pleurer quand je vois tout ça, moi. Franchement, toute cette violence.
On ne peut plus rien faire, toute la répression. Moi, je me bats dans la rue pour le service public, mes petits-enfants, ma retraite, j'ai bossé 50 ans.
De toute façon, il l'a dit, le président, il nous emmerde. Il l'a dit. Et à un moment donné, il faut qu'on soit entendu, tout simplement.
Jusqu'à ce que les avenues soient progressivement dégagées, sans que les manifestants n'aient réussi à totalement bloquer la place de l'État.
Et on a appris également l'interpellation de Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes, cet après-midi près de l'Élysée. Dans les rangs de la majorité, personne n'a de mots assez durs pour qualifier le mouvement qui tente de bloquer Paris. François Bayrou, président de Modem, ce matin sur France Inter, a estimé qu'il s'agit d'un mouvement de sécession d'une partie du pays qui a un désir de révolte sans que l'on sache, dit-il, ce qu'il souhaite vraiment obtenir. Nathalie Arthaud, de son côté, pour Lutte Ouvrière, s'est réjouie de cette contestation sociale qu'elle juge salutaire. En meeting cet après-midi à Paris, Nathalie Arthaud a également plaidé pour le retour d'une vraie gauche. Sur place à la mutualité, Antoine Gignot.
C'est au dessus de la gauche qu'elle s'adresse aux ouvriers, aux techniciens, aux retraités venus la voir. Elle propose un choix radical et pour les convaincre, accuse les autres candidats de faire trop de compromis.
Mélenchon promet par exemple un SMIC à 1400 euros net, ce qui est loin, très loin de ce qu'il faut. Son projet, ce n'est pas de renverser la grande bourgeoisie, c'est de travailler avec elle. Quand on a travaillé toute sa vie, on ne demande pas la charité pour faire son plein d'essence, pour se chauffer ou pour se loger. Alors il faut l'augmentation générale des salaires et des pensions de retraite.
Objectif zéro chômeur, martèle Nathalie Arthaud, qui réclame un salaire minimum de 2000 euros par mois et apparaît pour les sympathisants comme une alternative au reste de la gauche.
Moi, je ne peux pas leur faire confiance. Ils ne sont pas de mon côté.
Moi, j'ai eu confiance dans cette gauche il y a 20 ans quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, mais bon, je l'ai vue à l'œuvre. Je l'ai vue au service des grandes entreprises et pas de la population.
C'est ce qu'on espère avec les travailleurs. Ils se rendront compte qu'il faut justement que ce soit une autre solution.
Une solution révolutionnaire qui a toute sa place dans le débat, sourit Nathalie Arthaud, presque assurée d'être au premier tour de la présidentielle. Elle enregistre aujourd'hui 419 parrainages sur les 500 nécessaires. C'est presque 10 fois plus que Christiane Taubira.
Éric Zemmour, de son côté, en meeting à Saulieu, en Côte d'Or, a pris pour cible Valérie Pécresse devant plus de 3000 personnes dans cette ville de 2000 habitants. Il a étrié sa rivale LR avant, demain, son premier grand meeting de campagne au Zénith.
Je dis à ceux qui veulent voter Pécresse, en espérant avoir un Zemmour centriste, un Zemmour soft, un Zemmour light, avec Valérie Pécresse, vous n'aurez pas Zemmour. Vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour. Vous aurez un masque plaqué sur le visage de la technocratie. C'est pour cela, mes amis, que je veux m'adresser aux républicains lucides sur Valérie Pécresse et qui disent à voix basse qu'avec elle, non, ce ne sera pas bien, jamais de la vie, mais ce sera tout de même un peu mieux qu'avec Macron. Je veux leur dire, puisque vous êtes lucides, alors allez au bout de votre logique, assumez ce que vous pensez. Non, Valérie Pécresse n'est pas de droite.
Éric Zemmour, propos recueillis par Anne Souhaitement et dans la campagne. La question du logement avec les associations du droit au logement joue des coudes pour s'inviter dans le débat. Le Monde HLM veut reprendre la main et insuffler ses idées et ses propositions dans le débat public. Et après avoir planché pendant plusieurs semaines et fait remonter des propositions du terrain, les différentes fédérations de bailleurs sociaux viennent de détailler leur boîte à outils, 95 suggestions à destination des candidats pour parler du fond et pour construire plus. Claire Chaudière.
Faire du logement, pour commencer, la prochaine grande cause nationale.
Il y a eu la crise des gilets jaunes. Le logement est la première dépense contrainte dans les enjeux de pouvoir d'achat.
Pour la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse, le débat n'est pas à la hauteur.
On a très peu de propositions aujourd'hui des candidats. On veut une politique qui soutienne le logement abordable.
Alors au programme, retour sur la baisse des APL et les coupes budgétaires sur les bailleurs, construire sur les terrains libérés par l'État 30% de logements sociaux et cette idée pour favoriser l'accession à la propriété des locataires HLM que détaille Marie-Noëlle Lindemann de la Fédération des sociétés coopératives d'HLM.
Les locataires qui mettraient un peu chaque année sur un compte épargne parcours résidentiel pour acheter dans le neuf et qui, au moment où ils passeraient à l'acte, un peu comme l'épargne salariale, auraient un complément du bailleur.
Et pourquoi pas élargir les bénéficiaires de la prime accession délivrée par Action Logement.
Nous demandons à ce que ceux qu'on appelle les travailleurs essentiels dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière, puissent bénéficier de cette prime qui est autour de 15 000 euros.
Côté locataire, la Confédération nationale du logement remet, elle, sur le tapis l'une de ses propositions phares, la création d'un permis à points pour les maires ne respectant pas la loi SRU de construction de logements sociaux, système qui pourrait conduire à leur inéligibilité.
Et je reviens un instant sur la crise en Ukraine et les premières informations commencent à filtrer après le coup de fil entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Le président américain a dit au président russe que les États-Unis sont prêts à la diplomatie et à tous les autres scénarios. Le président américain a également expliqué que des répercussions seront sévères et rapides en cas d'attaque de l'Ukraine. On termine avec l'histoire d'un exploit dans les Alpes. Les trois faces nord les plus emblématiques gravies en mode express en seulement un mois cet hiver. La cordée, un trio, Sébastien Rattel, Léo Billon et Benjamin Védrine viennent de réaliser cette performance en domptant les guerres le 16 janvier, puis les Grandes Jorasses 10 jours plus tard et enfin, mercredi dernier, le Cervin. Cette triple ascension a déjà été réalisée il y a une dizaine d'années, mais pas en aussi peu de temps et qui plus est, les trois alpinistes ont emprunté les directissimes, c'est-à-dire qu'ils ont grimpé tout droit, Béatrice Duguay.
Les trois complices ont eu un peu de chance d'abord. Créneau d'ascension rapproché, offert par la météo, raconte Benjamin Védrine.
C'était vraiment un rêve là pour tous les trois. Et c'est vrai que c'est difficilement palpable, hein. Même ça semble finalement facile, tellement ça s'est goupillé de manière hallucinante. Hein. Enfin, on n'y croit pas d'ailleurs. Hein.
Évidemment, dans un froid omniprésent, les quatre jours de Liger avec des nuits en paroi, du matériel lourd, ont été éprouvants. Épuisant aussi les 13 heures de grimpette non-stop du Cervin. Plaisir éphémère tout en haut, concède d'un Sébastien Rattel presque à faune.
On est quand même épuisé, on n'a plus d'eau, on a 1500 mètres d'altitude en plein hiver. On a 10 petites minutes de joie et de satisfaction au sommet et après très vite on se reconcentre sur la longue descente qui nous attend de nuit parce qu'on sait que les courses se terminent qu'une fois qu'on est rentré à la maison et pas au sommet.
Les trois hommes ont laissé quelques kilos et beaucoup d'influx dans ces trois faces nord rapprochées dont ils doivent la conquête à leur complicité.
D'être là-haut tous les trois, d'avoir passé beaucoup de temps tous les trois à préparer les voies, à grimper ensemble, etc. Il y a un lien un peu fort entre nous trois au sommet, je trouve.
Cordée exceptionnelle, dit même Benjamin Védrine, au point de descendre le Cervin 4x4 pour que Sébastien Rattel honore une promesse de restaurant étoilé en famille.
Pour réussir à être à l'heure à son rendez-vous, on s'est mis vraiment la pression, presque plus que pendant l'ascension, je dirais. Donc il est passé du Cervin à la maison Pic le soir même, quoi. C'était assez cocasse.
Les trois alpinistes ont promis évidemment de se retrouver très vite pour célébrer leur exploit.
Un point rugby très bref. La France face à l'Irlande mène toujours 27 à 21 au Stade de France à 15 minutes de la fin du match dans le tournoi des Six Nations. Le temps pour demain.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
La dépression qui vient se caler sur les îles britanniques va engendrer un vent de secteur sud assez marqué sur la France, vers 50 km à l'heure en général, jusqu'à 70 dans le domaine de l'OTAN, voire 90 à 100 sur les Pyrénées, sur la pointe bretonne, avec plusieurs conséquences directes. D'abord sur les températures en hausse, les faibles gelées matinales se limitant au centre-Val de Loire, au quart nord-est et à l'Auvergne-Rhône-Alpes. En journée, les 19 degrés seront atteints vers Tarbes et Biarritz. Il fera plus généralement entre 15 et 17 de l'Aquitaine à la Méditerranée et 10 à 14 degrés plus au nord. Les entrées maritimes seront importantes et souvent pluvieuses du golfe du Lion au premier contrefort du Massif central. Et puis par le quart nord-ouest, des pluies vont faire leur entrée très tôt en matinée. En fin de journée, elles vont gagner la côte d'Opale, l'ouest du bassin parisien, le Limousin et le Midi-Pyrénées, tandis que plus à l'est, le soleil va résister.